Tasse, le terme de site, pour moi est vraiment, donc, comme Sophie a dit, un fourre-tout et qui regroupe des choses qui sont très 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 différentes, qui sont, donc là je parle surtout de la bitlite qui, ben, genre, comme vous l'avez dit, c'est de la bitlite plus sexy, on va dire, qui est essentiellement de la paranormal romance, qui est en fait beaucoup schématisé, hein, parce qu'il y a toujours des histoires et tout, mais c'est une histoire d'amour avec, avec une bête accro, enfin, des garous, un vampire, des psys, je sais pas quoi. Et à côté, ben, y a l'urban fantasy qui est ce qui est Buffy, et sur mon parler, le monde, payer ses factures, sauver le monde. Et voilà, quoi, c'est vraiment deux choses différentes, mais avec le terme bitlite, on voit beaucoup plus de paranormal romance. Je pense que ça regroupe des choses très très différentes, et si, si j'avais une baguette magique, je donnerais des étiquettes un peu différentes à des choses plus précises.
D'accord.
Moi j'aime bien les étiquettes, alors le terme bitlite il convient ou il convient pas, de toute façon on a le même problème avec toutes les définitions d'ordre littéraire,
hein.
Même si on essaye d'aller plus loin et définir le genre romanesque, on est complètement coincé assez rapidement, personne n'est d'accord. La fantasy c'est pareil, qu'elle soit urbaine ou pas, bon, donc de toute façon c'est jamais complètement satisfaisant. En même temps, moi ce qui m'intéresse dans ces cas-là, c'est qu'il y a des codes qui émergent, les codes dont parlait Sophie tout à l'heure, et c'est jouer avec ces codes qui va être intéressant. Qui fait d'ailleurs que sous la même étiquette, on va trouver des choses très différentes, puisqu'on va respecter toute ou partie de ce code, en jouant sur un des éléments, etc. Par exemple, Twilight, justement, ça a été de repartir sur la femme forte. Au lieu d'avoir une femme forte et active, on a une espèce de chose géniarde voilà, qui attend justement le prince charmant, à la différence de la plupart des héroïnes du guide qui ont des pouvoirs magiques, qui se prennent en main, etc. Voilà, et donc ça peut rentrer dans la bitlite parce qu'il y a, parce qu'il y a un certain nombre de codes respectés.
Moi je
ne
crois pas.
Pas vraiment, j'essaie de me faire l'avocat du diable, mais c'est ces jeux avec les codes qui sont intéressants et amusants.
D'accord.
C'est quoi
D'accord, eh ben merci. On va aborder un peu une autre thématique que vous avez déjà évoquée en fait. Vous avez, c'est assez génial parce que dans cette première question, vous avez évoqué la plupart des thèmes que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Et j'ai envie de vous demander, donc, Buffy est une série qui a accompagné son public pendant les 6 années de sa diffusion. Comment est-ce que ça se traduit au cours de la série? Et qu'est-ce qui a participé selon vous à l'accompagnement d'un public vieillissant et à toujours le garder au niveau? Perplexité. Alors, du coup, j'ai envie d'embrayer sur autre chose. Donner une petite piste, une autre de mes questions. Selon vous, du coup, quelle utilisation fait Joss Whedon de la figure des monstres au-delà de l'adversité physique pure dans sa série?
Je préfère la première.
Je t'invite. Vas-y, Auré.
Il me semble que Joss Whedon l'avait dit, que de toute façon, les vampires, c'était une métaphore pour le lycée, pour les profs et tout ça. Je pense que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on avait toujours envie de toujours un prof, on avait envie de tuer un petit peu quand on était comme ça. Donc je pense que ce que Buffy vit, si on, la trans, enfin, si on met ça dans la vraie vie, on se retrouve dans toutes les situations, malgré la. Enfin, elle a sa force, nous on est obligé de rester comme ça, mais je pense que c'est ça qui fait que. Voilà.
D'accord. Très bien.
Oui, Joss Whedon en a parlé plusieurs fois. Hein. Il voulait, au départ, l'idée c'était le monstre de la semaine, et après essayer de sortir assez vite de cette logique. Hein. La saison 1 est encore beaucoup là-dedans. Et effectivement, il y a toute une réutilisation de la plupart des monstres de classiques. Il y a le Frankenstein, il y a l'homme invisible. ici la fille invisible, mais à chaque fois l'idée effectivement c'est de réinterpréter ça comme des métaphores de l'adolescence. La fille invisible c'est la personne que personne ne voit et qui devient invisible. Frankenstein c'est le gars super populaire qui veut se fabriquer une fille alors qu'il est mort. Si je me souviens bien, il y a Jekyll et Hyde. À un moment, c'est sur la violence physique dans le couple, etc. Donc à chaque fois, il l'a réinterprété de cette manière-là. Quant aux vampires, dans Buffy, ils ont un statut qui est très très particulier et qui est, à mon avis, assez difficile à définir, puisque au départ, c'est l'ennemi absolu, avec une exception, c'est Angel. Mais lui, donc, c'est une contrainte magique qui lui permet de ne pas être comme il est. Il a récupéré son âme, donc il perd cette caractéristique. Et quand on passe à Spike, c'est nettement plus intéressant parce que c'est un personnage d'une ambiguïté absolue. Parce que lui, il y a sa puce qui l'empêche physiquement d'agresser les gens. Mais son évolution morale, elle se fait seule. Elle est aidée par cette contrainte. Mais il y a une évolution morale qui se fait. Et quand d'ailleurs il se rend compte que cette évolution morale n'est pas suffisante, c'est là qu'il cherche de lui-même à récupérer son âme. Mais c'est l'aboutissement d'un cheminement. Et du coup, dans ces cas-là, le vampire est une figure très complexe. C'est à la fois donc l'ennemi, ça devient l'amant pour Buffy, ça peut être une forme de mentor aussi, différent de Giles. C'est très très compliqué. Et en même temps, c'est le désir aussi de rester jeune et de ne pas vieillir, d'être, parce qu'on a plusieurs épisodes qui tournent autour de ça. Notamment quand elle retrouve son ami d'enfance avec le bunker, c'est l'idée de ne pas mourir, de ne pas vieillir. C'est extrêmement complexe. Je pense qu'ils ont vraiment tout balayé avec la série sur tout ce qu'on pouvait faire avec les métaphores vampiriques. Et c'est d'où la richesse de la série.
Alors, pour la question d'avant, pourquoi ça a bien accompagné
Très bien, parce qu'elles se font écho.
Déjà, il y a la réponse évidente, c'est qu'on vieillissait en même temps que les personnages, même s'ils étaient plus âgés que nous à la base. Mais du coup, il y avait une révolution, parce que la première chose que j'ai pensé, c'est parce que Buffy n'avait pas toujours 16 ans. Et elle grandit, elle suit l'université, elle rentre dans la vie active, elle doit faire... Et on était un peu plus jeunes ou pas à l'époque, mais on suivait quand même le même cheminement, on suivait le même cheminement qu'elle, et tout s'imbriquait bien. Et pourquoi ça a aussi bien collé, je sais pas, moi j'ai envie de dire, c'est parce que je sais pas, Joss Whedon m'a un peu appris la vie quand même au travers de Buffy, et une énorme partie de mon humour, peut-être un peu d'ailleurs le plus pourri, vient de là-bas aussi, parce que sérieusement, et au bout de la troisième apocalypse, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bon, c'est la même chose que d'habitude, quoi. Il y a des épisodes qui sont absolument géniaux, cultissimes. Qu'est-ce qu'ils disent dans l'épisode musical? Ah ouais, c'est encore une apocalypse, qu'est-ce que ça va changer, quoi. Et cette espèce d'humour face à l'adversité, c'est de la famille. La réponse est bon.
Alors, moi je vais essayer de répondre aux deux questions à la fois.
Super.
Pourquoi Buffy nous a accompagnés? Et quelle est la relation aux monstres? Je pense que c'est aussi parce que Buffy possède une part de noirceur. Au fil du temps, à force de fréquenter les monstres et les combattre, elle devient un petit peu un monstre aussi. Elle se pose de plus en plus la question de ses actes, de ce qui fait d'elle un humain et de, à force de fréquenter les monstres, est-ce qu'elle n'en est pas devenue un? Et je pense que c'est une part qu'on possède peut-être un petit peu tous en nous aussi. À s'interroger sur nos actes, sur le mal qu'on peut faire, sur les conneries qu'on a faites, sur nos relations avec les autres. Donc ce qui fait qu'on se retrouve dans cette interrogation que développe petit à petit l'héroïne au fil du temps. Et dans sa relation au monstre, moi il y a un épisode qui m'a marqué, c'est dans la dernière saison, où elle s'impose énormément. Dans la dernière saison, elle s'interroge de plus en plus sur sa relation avec le mal absolu et avec Spike. Et le mal absolu vient la voir et elle lui dit non, je suis heureuse. Et il lui dit mais si tu es si heureuse, pourquoi tu es pas dans les bras de ton cadavre? Et en parlant de Spike. Et je me suis dit voilà, à la fois, ça, les deux questions ont évoqué ça, la relation au monstre et ce qui nous touche dans Buffy, c'est à la fois le fait qu'elle est humaine, qu'elle se pose des questions sur sa nature et sur sa relation avec les autres étant ce qu'elle fréquente au quotidien, c'est les monstres qui sont à la fois ben, des humains aussi parfois, mais des humains un petit peu monstrueux.
Que fait Spike dans la saison 7, le monstre, la vraie chose horrible que fait Spike dans la saison 7, c'est quand même dans la salle de bain quand il essaye de la violer. Et du coup, encore 6. Du
Mais moi, chaque fois, je reviens à la suite. Donc, j'ai des semaines où je ne sors pas beaucoup de chez moi. À la fin, les monstres ont des comportements. Si j'ai vu le dire en français, des comportements. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment ça. Donc, ils sont. Oh, ben, on va partir, on va toutes les deux.
Mais t'as pas fini ta phrase du coup.
C'est vrai.
Ouais.
Et donc l'évolution du monstre, c'est que plus ça va, plus les monstres prennent un caractère humain dans la saison 7. D'accord, c'est passé dans la saison 7. Hein.
Oui.
Le vrai méchant prend les traits de vrais personnages, prend souvent les traits de Buffy, prend les traits de tout le monde. Donc le mal devient. Le vrai mal à la fin devient humain, même s'il ne l'est pas du tout. Quoi. C'est le mal le plus primaire en français. Mais il. Primitif, merci. Chiota. Mais. voilà, donc dans l'évolution, en fait, au début, c'était vraiment genre des gentils petits vampires qui tuent tout le monde, hop, mais à la fin, c'est le mal profond qui ronge l'humanité.
Bah, merci beaucoup pour vos réponses assez complètes sur ces deux questions. Personne n'a rien à ajouter sur celle-là pour l'instant.
Pour l'instant.
Du coup, j'ai envie de revenir sur un autre thème que vous avez abordé dans l'introduction de cette table ronde, qui est l'aspect féministe de la série. Et je me demandais, selon vous, quelle est la vision du patriarcat, et donc intrinsèquement de la relation paternelle, qui est délivrée dans la série Buffy contre les vampires.
Comment
voilà. Vas-y, je t'en prie.
Alors, Buffy, déjà, son père est jamais là. Donc, c'est la figure de la mère qu'elle écoute plus sporadiquement. Voilà. Giles, c'est pareil, c'est son mentor, mais elle met du temps avant de comprendre qu'il est là pour elle et que finalement, il ne fait pas les choses juste pour la contrarier. Et c'est vrai que la figure du père dans la série, il faut vraiment qu'elle grandisse en fait, pour se rendre compte qu'elle en a besoin. Au début, c'est une fille, et puis elle fait ses petits trucs avec ses vampires, avec ses amis, et Giles, c'est un vieux, et puis il s'en fout. Et finalement, en grandissant, je pense qu'elle se rend compte que la figure du père est importante pour elle, et c'est à partir de là qu'elle arrive à se construire un peu mieux quand elle accepte les conseils de Giles. Je pense.
Oui, alors effectivement, le père, pardon, il apparaît dans deux épisodes, et c'est Giles qui incarne la figure paternelle. Il y a d'ailleurs un article dans Philo-série Buffy qui vient de sortir, qui est très bien là-dessus, sur justement le moment où, alors ça se construit petit à petit, mais c'est le moment où il va y avoir l'épreuve de Buffy pour sa majorité, et où la relation établie avec Giles, justement, elle devient... tout à fait explicitement paternelle, puisqu'elle lui dit c'est ce que les observateurs peuvent emmener leur fille à la patinoire ou leur tueuse et tout, et lui est en train de lui faire passer un test. Et en fait, le moment où elle le reconnaît vraiment complètement comme une figure paternelle, c'est le moment où il a trahi, puisqu'il va obéir à l'instance supérieure des observateurs et lui faire subir cette épreuve absolument ignoble, qui va partir en plus en quenouille, si j'ose dire. Et donc en fait tout ce qui est ici, le rite de passage ne fonctionne pas ou ne repose que sur la trahison, et donc Buffy va se construire par rapport à l'autorité uniquement dans le refus, en fait, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus faire complètement confiance à Giles en tant qu'agent de Giles, d'ailleurs lui se fait dégager des observateurs, etc. Et c'est cette figure paternelle qui est une des formes d'incarnation du patriarcat, mais même s'il n'essaie pas forcément d'être on le voit, c'est que c'est l'incarnation de la tradition, Giles aussi, donc ça peut être cette forme-là, mais qui est détruite petit à petit. Et c'est quasiment la même chose. Willow, pareil, on ne voit jamais son père, si je me souviens bien. On voit sa mère, si, quand elle essaye de la voler. Elle veut voler des sorcières, là où Amy se fait transformer en rat. Mais c'est quasiment le seul moment où on la voit. C'est pareil, si je me souviens bien, je crois qu'on voit que la mère, en tout cas on l'entend d'Alex, de Xander. Enfin voilà, les parents, les pères sont particulièrement absents et déficients. Et du coup, il ne reste plus que le pouvoir féminin à mettre en place.
Donc moi, j'ai rien de plus intelligent que Fabien à dire, mais comme d'habitude, modestement, au milieu de femmes.
J'y réfléchissais, donc Aurélie répondait, c'est que la seule fois où on a une figure paternelle officielle entrée pour Buffy, c'est quand sa mère sort avec Ted le robot. Et qu'est-ce que c'est ? Donc déjà, c'est un truc fonctionnel, un robot. Je cherche un mot, vas-y, j'ai trop de mots.
Pardon ? Oui,
mais... Bien huilé, mais... C'est d'automatique, c'est de pas humain qui n'a pas d'émotion. Non. Et au final... Et au final, elle doit sauver sa mère du... Elle doit sauver sa mère de ce qui aurait pu être une figure paternelle et puis un pauvre Joyce.
Bah, surtout que c'est vert et bleu, hein, et puis c'est fort.
Oui.
Alors, il y a un autre épisode pour moi, je crois, dans lequel on voit le père de Buffy, c'est l'épisode où il est folle.
Oui.
Il est là, son père. On ne sait toujours pas si elle est folle ou pas, mais une chose qu'on sait, c'est qu'un de ces rares épisodes où on voit le père de Buffy, il est tout à fait d'accord pour le faire interner. Hein. Ça fait pas non plus. Alors le père est tout le temps absent, mais la seule fois où il est là, c'est pas très glorieux comme épisode. Voilà, c'est pour son bien. Et il y a aussi l'épisode aussi où elle rêve qu'il est là. Oui. Où elle fait des cauchemars et elle croit qu'il est là. En fait, c'est le mal qui va lui conduire sous la forme de son père, qui la trahit une fois de plus. Donc c'est, non seulement c'est une présence paternelle absente, mais c'est une présence paternelle négative. Et en parlant de l'éducation féminine dans Buffy, elle reproduit le schéma de sa mère, après, avec sa jeune sœur, qui n'est pas vraiment sa sœur, mais quand elle en a la charge, elle l'élève, et elle conseille aussi de s'en occuper. Donc, girl power, quoi. Voilà.
Si vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas. Ok, bien, on a fait un beau tour de la question de la présence paternelle dans Buffy, c'était très enrichissant. Mais du coup, j'ai une question liée à tous ces thèmes qu'on a abordés. C'est que justement, Buffy a abordé des thèmes de société, souvent sur la différence, sur l'homosexualité, sur le questionnement des genres, sur le patriarcat, l'absence paternelle. Est-ce que vous, là c'est une question d'avis personnel, est-ce que vous considérez que Buffy est une série subversive ? J'ai envie de changer d'ordre. On va commencer par Sophie.
C'est horrible de faire commencer comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement par subversif ?
Ok. Très bon habillage et mobilisation du temps. Donc ma question c'est, est-ce que selon vous, c'est une série qui sert uniquement son propos profond comme on peut le voir, ou est-ce qu'elle a aussi pour sujet vraiment les aventures qu'on y voit ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une série qui a été faite uniquement pour faire passer des idées subversives ou également pour juste pour le plaisir de la chose et le plaisir de l'aventure ou un mélange de deux ? Après, c'est pas à moi de répondre aux questions. Quelqu'un ? Allez, on y va.
Je vais répondre à la question par une autre question. Pourquoi est-ce que l'un exclurait l'autre ? Je pense que si Joss Whedon avait fait cette série juste pour le fun, je ne pense pas qu'elle contiendrait autant de réflexions et de thèmes subversifs. Et je pense qu'il avait fait ça uniquement pour faire une série éducative sur son avis, sur la société et sur ses opinions, ce serait juste super chiant. Donc je pense qu'il a voulu faire les deux à la fois. Et il y a une auteure qui m'en a parlé, c'était... Voilà, c'était une auteure que j'aime beaucoup. L'auteur qui a écrit Femme de l'Outre-Monde. De l'Outre-Monde.
Dans quel livre ?
La réponse dans la salle ?
Oh mon Dieu, c'est ça.
Kelly Armstrong. Qui m'a dit qui a écrit Femme de l'Outre-Monde, qui est également une série assez féministe, avec beaucoup de créatures surnaturelles et des femmes très fortes. Et elle me disait qu'en fait, les mondes imaginaires, ça permettait de faire passer énormément de messages qui ne passeraient pas si c'était juste dit comme ça sur la table en faisant la morale aux gens. Ça permettait de raconter des histoires avec des petites leçons, des petits proverbes qui restent en tête et qui font réfléchir sans avoir l'air, sans écraser les idées avec le violon sur la tête des gens. Voilà. Donc je pense que c'est les deux à la fois et que ça permet de... Moi en tout cas, comme disait Marika, j'ai grandi avec Buffy, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai grandi avec et j'en reste fan et je me suis bien amusée à crier « Vas-y, Spike, casse-lui la gueule, Angel !» C'était bien.
Attention, remarque féministe type Buffy qui va arriver, mais un des seuls trucs intelligents que m'a dit mon père, c'était que pour apprendre quelque chose, il fallait en fait le comprendre. Et c'est le seul truc intelligent. Oui, il y a des trucs drôles, je crois. Il y a beaucoup plus de trucs drôles qu'intelligents. Et du coup, mettre ça sous forme d'histoire, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'aventures, mais avec des personnages auxquels on arrive à s'identifier quand il arrive des choses, quand il y a des injustices, quand il y a des choses qui arrivent pour les conséquences logiques d'autres actions ou événements, on arrive à s'identifier aux personnages et du coup on les comprend. On arrive à comprendre par exemple, je sais pas, comment on peut se sentir par exemple quand on est la fille ignorée qui devient invisible alors qu'on n'est pas, ça ne nous est pas arrivé, ou bien l'incompréhension des gens face à l'homosexualité alors que nous on est hétéro, ou des. Enfin, c'est des exemples, c'est le premier qui me sont passés par la tête parce qu'en cette saison, il y en a 7, hein, je le sais.
Oui.
Mais du coup, c'est vrai que. Oui, et puis les comics. Mais du coup, on s'identifie au personnage, on comprend, et. Et moi je suis du même avis que Sophie, c'est le premier truc qui m'est arrivé, qui m'est passé par l'esprit, c'est pourquoi pas les deux à la fois, parce que c'est comme ça que c'est plus utile.
Oui, la saison 7 d'ailleurs témoigne un peu de ça, c'est-à-dire le moment où ça devient vraiment sérieux, où ils disent nous sommes en guerre, etc. C'est les moments où il y a des épisodes qui sont au milieu dans Buffy, dans la saison 7. J'ai beau adorer Buffy, la saison 7, il y a des moments vraiment un peu courbés, un peu fatigants, et c'est justement quand la morale devient explicite. Et effectivement, le travail avec la fantaisie et tout le merveilleux, etc., quelle que soit l'étiquette qu'on colle, c'est justement de faire passer des messages de façon douce. Là où Joss Whedon est, je ne sais pas s'il est vraiment subversif, parce qu'il n'y a personne qui a demandé l'interdiction de Buffy, qui s'est insurgé en disant Buffy, c'est scandaleux, c'est mal et tout. Alors que par exemple pour Harry Potter, on a eu des religieux, par exemple, extrémistes, qui voulaient brûler Harry Potter, les livres, l'auteur, les lecteurs peut-être en même temps, je ne sais pas, à l'ancienne. Mais. Je pense que la série surtout est novatrice, c'est-à-dire qu'elle introduit des thèmes qui étaient parfois déjà présents dans la fiction télévisée, mais qu'il a été montré de façon plus claire, et notamment effectivement sur le passage du temps, ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des séries où on repart à zéro à chaque début d'épisode, là il y a un écoulement du temps, effectivement, du coup la perception du spectateur n'a plus rien à voir, c'est une série qui est faite quand même pour être regardée à la suite. Et effectivement, après l'avoir vu 5-10 fois, on voit comment des thèmes sont annoncés, une, parfois deux saisons à l'avance. Et c'est une construction absolument extraordinaire, le film. Il y a une architecture magnifique d'une saison à une autre, ne serait-ce que dans les symétries des méchants. Si on se focalise que sur les méchants, on s'aperçoit que le maître du début répond complètement aux Uberwamp de la fin. Et on pourrait continuer comme ça. Et le seul qui synthétise tout, c'est Adam au milieu, qui est à la fois robot, humain, un peu magique aussi à un moment, etc. Et c'est la synthèse absolue. Et autour, il y a une symétrie parfaite des méchants. Au niveau de la position d'ailleurs qu'ils occupent dans l'espace, dans la saison 5, c'est Gloria. Dans la saison 3, c'est qui déjà qui est en l'air ? C'est le maire. Voilà, on a le trio dans la saison 6, on a une espèce de trio aussi avec Angel, Spike et Drusilla dans la saison 2. Donc il y a vraiment une construction, une architecture qui est très très forte, on est en train de perdre des gens. Ça va. Et donc la force de cette série, c'est effectivement cette construction qui est très solide, alors qu'il y a quand même une écriture qui est collective, et sur une très longue durée, ils ont changé de chaîne, etc. Et c'est d'être arrivé à faire passer des thèmes comme ça, un petit peu subversifs, mais sur des networks américains quand même. Alors peut-être pas les deux derniers, c'est, je ne sais plus si c'était du network les deux dernières saisons, là où justement ils abordent la sexualité sadomasochiste avec Spike et Buffy, même si c'est suggéré, on comprend quand même vraiment bien de quoi il s'agit. Bon, faut le faire quand même dans une série comme ça. T'as pas compris. Excusez-la. Tu sais, t'es sûr que t'as vu les 7 saisons? Parce que ça se trouve, tu t'es arrêté à la 5ème.
Il y en a 5.
Il y a 7 épisodes.
Ah, Donc il y aura un truc à rectifier pour la prochaine fois. Et donc voilà, et effectivement, ça, le, et c'est justement en jouant sur à la fois le spectaculaire, c'est ce que disait Sophie, c'est ce que disait Marika, et sur le, l'apprentissage derrière. Et moi je pense que ça passe vraiment par un travail sur la structure.
Qui montre mieux quand même la partie subversive et le fun, c'est l'épisode musical qui finalement, moi c'est mon épisode préféré. Jusque là j'ai adoré la série, après l'épisode musical je commence un peu à, pas à me lasser, mais c'est quand même un peu plus compliqué parce que c'est vachement sérieux après. Mais l'épisode musical, première fois qu'on regarde, on se dit c'est rigolo quoi, ils n'arrêtent pas, enfin, ils chantent, c'est sympa. Finalement, quand on écoute les paroles et quand on se rend compte que ça clôt beaucoup d'histoires et que ça amène aussi beaucoup d'autres intrigues, finalement, c'est tout un travail dans cet épisode-là qui montre autant les thèmes qui sont chers à la série. Et puis, bah, c'est un épisode pour le fun parce que tout le monde chante, tout le monde danse et c'est rigolo.
D'accord, ben, merci. Est-ce que vous avez vu autre chose sur ce thème ou... D'accord. J'ai envie de... Il nous reste... un petit peu de temps, j'ai envie de vous amener sur une autre thématique, on sort un peu de tout ce côté subversif et on revient un peu à l'aspect influence. Et donc justement Buffy est la tueuse, donc l'être qui devrait être le parfait opposé de sa cible. Pourtant c'est pas toujours le cas. On remarque justement ce dont parlait Sophie un peu plus tôt, qu'il y a une part d'ombre qui se développe chez Buffy. Et comment sont traitées ces connivences entre chasseurs et cible dans la série, et est-ce que ça fait écho, est-ce que ça ferait pas écho à d'autres grands chasseurs dans la littérature vampirique? Qui se sent de commencer là-dessus? Marika, je te sens inspirée.
Mais je vais répondre qu'à une partie parce que
je t'en prie.
Je laisse un peu de trucs pour les autres.
Merci.
Mais de rien. Déjà le rapport entre Buffy et ce qu'elle chasse, c'est que je pense que pour être un bon chasseur, il faut déjà comprendre sa proie. Et peut-être à un certain niveau, il ressemblait. Et enfin, pendant que tu posais la question, j'ai pas écouté en entier. J'ai pensé à un truc qui est quand même que Buffy est la seule chasseuse qui a vécu aussi longtemps. Les autres vivent pas, vivaient moins longtemps et peut-être qu'au bout d'un moment, beaucoup de pouvoir, beaucoup de responsabilités, ça commence à peser. Et peut-être que elle change, quoi, elle devient plus, plus noire, moins... Mais je pense quand même que mes types, je n'ai jamais pratiqué la chasse, hein, mais si jamais vous voulez y aller en suivant mes conseils, c'est que pour bien chasser, il faut connaître sa proie.
J'allais dire exactement la même chose que Marika, en écoutant la question. Je n'ai pas dit ça. Donc, je n'ai pas chassé, mais tous les chasseurs que vous connaissez, on écoute quelques-uns, ont dit que pour bien chasser, il faut connaître sa proie.
Je n'ai pas dit des conneries.
Non, pour une fois, tu n'as pas dit des conneries, c'est
non,
fou.
Non, mais pas. Ah, pas. Si vous voulez aller. Mais là, c'est pas terrible. Mais,
je sais pas ce qu'il vous écoute. Moi, j'aime bien trucider des petits mammifères des bois, c'est mignon, c'est festif. Et après, je m'approche la queue dans les cheveux.
Mais elle est végétarienne, hein.
Ceci dit, on parlait même pendant à l'époque des Indiens et tout, il y avait les hommes des bois. Les chasseurs, c'était des hommes des bois. Et ils s'habillaient avec les peaux de leurs animaux. Et c'est ça, voilà, c'est convivial pour épater ses amis. Mais donc, j'en ai plus. Donc, pour ressembler au fait d'une part d'ombre, ça arrive très souvent dans la Bible, au fil des saisons, à force de fréquenter les monstres, même si c'est pour les tuer, les chasseurs finissent par se poser des questions, parce qu'ils se demandent si elles-mêmes ne sont pas devenues des monstres. Aussi ce thème dans la plupart des romans policiers. Quand ça se développe en série, certains enquêteurs, à force de traquer les criminels, de les étudier, finissent par se demander si eux-mêmes n'en deviennent pas. Oui, oui. Mais aussi le fait aussi que parfois, pour parvenir à certains buts, il faut faire des choses répréhensibles. On dit la fin justifie les moyens, sauf que si pour sauver quelqu'un, on entrucide trois autres, est-ce qu'on n'est pas finalement monstre? Donc en fait, je pense que c'est un thème qui est propre à la Bible, mais pas forcément. Et souvent, le chasseur prend une part de sa proie ou des monstres qui traquent. Et c'est pas, je dirais pas que c'est naturel, mais c'est assez fréquent. Et c'est pas forcément propre à Buffy, même si Buffy fait partie des premières séries à l'avoir peut-être monté de façon explicite sur cette saison.
Très bien.
Hop là.
Alors je vais dire parce que Marika a oublié d'en parler, mais effectivement, les pouvoirs de Buffy, on a bien vu qu'on l'apprend. Alors, je ne sais plus dans quelle saison on le voit, ça doit être la 6 ou la 7. C'est là où on découvre que l'origine des pouvoirs des tueuses sont d'origine démoniaque, et donc il y a une même nature entre les deux. Moi je voudrais insister, alors ça c'est un classique, hein, le chasseur et la proie, etc. Buffy c'est pas qu'un chasseur, c'est aussi une guerrière. Et c'est pas exactement la même figure, c'est-à-dire elle est pas sans arrêt en train, elle court aussi beaucoup après les vampires, mais elle combat, et toute la métaphore de l'armée dans la saison 7 est suffisamment lourde pour qu'on le comprenne. Et il y a cette idée, à mon avis aussi, d'exclusion de l'humanité, dans le sens où il y a le thème antique, par exemple, de la fureur guerrière, c'est-à-dire le guerrier au combat entre dans une espèce de transe. On retrouve ça avec les berserks qui meurent leurs boucliers et qui se battent jusqu'à tomber morts et qui sentent pas les blessures. Et je pense qu'on a une illustration de cette idée au moment où Faith tue un être humain alors qu'elle est persuadée de tuer un vampire. Et c'est le moment justement où elle bascule ailleurs, alors que Buffy n'a jamais commis cette erreur. Il y a une fois, je crois, où elle pense avoir commis cette erreur, c'est-à-dire que c'est un piège, je ne sais plus, il joue avec le temps, etc. C'est avec la saison 6 encore, où elle est persuadée aussi d'avoir tué un être humain. Tout ça, c'est des avertissements du fait que le guerrier, comme le chasseur, à un certain moment, doit s'extraire de l'humanité pour faire son travail, mais avec les risques que ça comporte. Et le travail de Buffy, c'est de rester humaine tout en étant tueuse.
C'était juste une petite réflexion en plus sur le fait de l'exclusion. À l'époque, il y en avait encore, c'était aussi la position du bourreau de tuer, mais il était exclu de la société. Il ne devait même pas toucher dans les commerces, toucher les aliments que les autres clients pouvaient toucher. Il était obligé de le faire avec des cuillères ou des objets. Il n'avait pas le droit de les toucher pour ne pas les contaminer. Dieu et nous seuls pouvons. C'était il est humain, mais plus vraiment parce qu'il tue. Donc voilà, il y a la fureur guerrière, mais il y a aussi le fait de plus tout à fait humain à côté.
Rien à dire du tout. Bon, bah, écoutez, on approche de la fin de cette table ronde. Je vous remercie vraiment de tout ce que vous avez apporté, même si je suis désolé de vous avoir un peu coincé parfois. Peut-être que la prochaine fois, j'enverrai mes questions à l'avance pour que vous y réfléchissiez. J'ai envie de finir sur quelque chose de beaucoup plus basique. Pour conclure sur une bonne note, c'est ce que vous préférez dans Buffy, votre personnage, votre arc, votre épisode préféré. Tout simplement.
Moi, c'est l'épisode musical. Il n'y a pas photo, je veux dire, je peux le regarder 25 fois, j'ai la bande originale dans la voiture, enfin, je connais les paroles par cœur, c'est juste l'épisode que je préfère sur les 7 saisons. Il n'y a pas photo. Et les personnages, moi, j'aime pas. À l'époque, je n'aimais pas du tout Faith, et puis finalement, quand je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, là, finalement, c'est elle qui a le parcours le plus intéressant, et finalement, c'est elle aussi qui est mon personnage préféré maintenant.
Oui, sans originalité, c'est effectivement l'épisode musical. Et pour voir à quel point c'est supérieur, par exemple, à ce qui a été fait dans Xena la Guerrière, parce que je regarde Xena la Guerrière aussi. J'aimerais qu'il n'y ait aucun commentaire là-dessus. Je vous remercie. En fait, l'épisode, ça aussi, c'est dans la philo-série que je l'ai appris. L'épisode muet qui est dans Buffy, au départ, ça devait être l'épisode musical, et ils ont décidé de le déplacer parce qu'il venait d'y avoir cet épisode musical dans Xena. Or, dans Xena, l'épisode musical n'apporte rien d'un point de vue dramatique. Alors qu'effectivement, dans Buffy, on a vraiment la révélation de tout ce qui était caché à ce moment-là. Et donc, ils ont vraiment réussi un épisode quasiment parfait, parce qu'il y a évidemment un jeu aussi sur des plans séquences, notamment en ouverture, etc. Ils ont réussi donc à utiliser un démon qui est à l'origine de cet événement, mais à chaque fois, évidemment, ça fait avancer l'action. C'est pas juste en train de danser en disant je danse, je chante, etc. Il se passe rien. Si l'action avance, tout est révélé, ça va avoir des conséquences pendant très longtemps après. Donc c'est un chef-d'œuvre absolu. Et je vous chante pas de chanson, mais j'ai la chance.
Alors moi, c'est égalité entre l'épisode musical et Hush, qui est donc l'épisode muet. C'est rigolo d'ailleurs que les deux meilleurs épisodes de la saison, de la série soient quand même un épisode muet et un épisode musical. Ils sont quand même un peu l'antithèse d'un autre. Parce que juste, c'est en même temps super creepy, tendu, les gentlemen sont des créatures juste absolument géniales, quoi, comme ils arrivent à être tout bizarres comme ça. Et ils sont géniaux. Et quand même, on se rend compte que crier, c'est la première réaction quand on a peur, quand on veut appeler à l'aide. C'est, et pas pouvoir faire de bruit, c'est un des trucs les plus horribles qui peut arriver. Et personnage préféré.
Je
ne
sais pas qui est mon personnage préféré.
C'est Spike. Donc lui c'est Spike, donc moi je pense aussi que c'est Spike. C'est quand même Spike. Je pense que c'était mon premier gros, même aux confessions, hein. Ça va tout vous surprendre, mon premier gros fail réalisé. Non, Spike, son fichu caractère, son humour, sa répartie, c'est... Et puis c'est son faux accent anglais, absolument génial. Spike qui se souvient pas qu'il est Spike et puis qui croit qu'il est le fils de Giles Randy. C'est génial, ouais. Spike sur toute la... Spike dans la saison 5 quand ils sont amoureux avec Buffy pour de faux et puis que le dernier fait exactement ça. C'est génial. Spike est le personnage, mais les autres sont géniaux aussi. Alors une fois, demandé qui n'aimez-vous pas, Riley.
Je crois que je vais pas être original. L'épisode muet. L'épisode musical et Spike. L'épisode muet, je dois avouer quand même que les gentlemen, j'en ai fait des cauchemars. Pendant plusieurs semaines, je me suis réveillée. Ah ben non, je pouvais... Ah ben si, moi je peux. J'en connais qui n'a pas été content parce que moi je pouvais crier. Et Oui. Elle le mime bien, n'est-ce pas? Donc voilà, et oui, Spike, le premier crush, ça a été lui, hein, parce que sans conteste. Sans juste Spike avec. Le ridicule aussi, parce qu'il y a des épisodes, des moments où il est vachement ridicule. Quand il se vautre, il y a un épisode où on le voit arriver, grosse musique, belle voiture, la grosse botte qui écrase le panneau de Solidale. Et quelques saisons plus tard, la même chose, et il se vautre parce qu'il est ivre mort. C'est fabuleux. Il y a des épisodes où il est ridicule, où Angel se moque de lui, et il est génial. C'est un personnage humain. Oui, et Angel, la bagarre entre Angel et Spike. Et il y a un épisode aussi qui n'est pas parmi les égouts.
Quand il est énervé par Harmony.
Il y a un épisode que j'adore aussi, c'est celui où avec Buffy, il casse une maison. C'est génial. Non, c'est pas très comique. Mais voilà, je vais arrêter là. Hop.
Il y avait aussi le dernier épisode de la saison 5, The Gift, quand Buffy se sacrifie. Mais ça, c'est pas... Je sais pas, j'ai revu mon film, qui est aussi vachement marquant. Mais là, du coup, c'est pas un épisode plaisir, qu'elles sont prend plein la gueule par un dieu, et puis après, elles se sacrifient. Et puis, maintenant, j'en ai
plus de choses. Ah, un dernier ajout.
Il y a aussi encore un épisode qui m'a marqué, c'est celui de sa résurrection. Quand elle est très bien dans son cercueil, qu'elle est toute contente, on la ramène, et c'est le carnage sur terre. Sa première réaction, c'est je suis en enfer. C'est gênant, c'est notre monde, c'est l'enfer.
C'est pour ça qu'en fait, l'épisode musical.
C'est pour ça que l'épisode musical est tellement triste, parce que c'est festif et tout, mais quand on entend ce qu'on chante Buffy, c'est horrible, ça... Il y a des moments... Ça te coupe le souffle.
Aurélie, Fabien, Marika et Sophie, je vous remercie vraiment pour votre intervention. Et puis, merci à tous d'avoir assisté à cette table ronde. Et puis, je vous incite à rester parce que juste après, il va y avoir un quiz sur Buffy contre les vampires, justement, et un quiz sur le cinéma, le chasseur de vampires dans le cinéma. Voilà, merci à tous.